Dans ce journal, on va parler de ces deux décisions du Conseil d'État très attendues et deux annulations partielles sur la réforme du RNS et sur la loi tabac. On fera le point aussi sur l'adoption de la loi spéciale en France pour le budget de l'État et enfin un petit tour du côté du cirque des Samoa. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Le Conseil d'État a rendu deux décisions très attendues cette nuit.
Et oui, d'abord sur la loi tabac votée début septembre après de longs débats à Talahoy. Une loi qui, rappelez-vous, avait été préparée par le gouvernement pour venir encadrer davantage les produits nicotinés et notamment les produits liés au vapotage. Mais lors des débats à l'Assemblée, coup de théâtre, un amendement présenté par Lana Tetuanui, finalement voté par la majorité des élus, était venu interdire purement et simplement l'importation des vapes, des liquides et des produits qui y sont associés. Plus aucune importation au 1er juillet prochain, plus aucune vente l'année suivante. Et bien cette mesure qui avait motivé le recours des professionnels du secteur a été censurée par le Conseil d'État, Charlie René.
Et oui, l'article 76 de la loi qui avait donc été ajouté en séance et contre l'avis du gouvernement. Il faut dire que l'interdiction complète des produits de la vape était une mesure inédite en France et dans le monde, qu'elle était dénoncée avec force par les importateurs et distributeurs locaux, à l'origine donc de ce recours. Réunis dans un collectif début septembre, ces professionnels avaient dénoncé un affichage électoral et expliqué que bannir la vape revenait à choisir la cigarette qui restait elle parfaitement légale, malgré sa nocivité beaucoup plus importante. Forcément, ces revendeurs sont soulagés ce mardi, mais le gouvernement l'est aussi. Lors des débats à Talahoy fin août, le ministère de la Santé avait pris soin de faire ajouter l'amendement de Lana Tetuanui dans un article à part qui venait s'ajouter à l'ensemble des dispositions déjà prévues par le texte. Une manière de se prémunir contre une telle annulation. Avec cette décision du Conseil d'État, le texte retrouve finalement la forme que lui avait donné l'exécutif, pas d'interdiction de la vape, mais des évolutions importantes du cadre réglementaire. Les vendeurs devront avoir une licence, comme ceux du tabac, ils ne pourront plus vendre aux mineurs, les puffs seront bannis, comme des dizaines de parfums exotiques ou fruités, jugés trop attirants pour la jeunesse. Certains produits trop dosés en nicotine seront aussi interdits. Autant de dispositions qui devraient s'appliquer progressivement dans les mois à venir, Lucie.
Voilà, et preuve que le gouvernement s'attendait à une telle décision du Conseil d'État, il a aussi fait voter début décembre un renforcement de la fiscalité sur les produits de la vape et ce, dès le 1er janvier.
Et les juges parisiens se sont aussi exprimés sur un autre texte très discuté à l'Assemblée, la réforme du RNS.
C'était l'autre grand débat de la session extraordinaire de fin août et début septembre, le texte revoyant les conditions d'affiliation au régime des non-salariés, un texte très contesté par le patronat, la CPME en particulier, et par l'opposition autonomiste qui voyait un alourdissement déguisé de la fiscalité. Le débat avait notamment porté sur l'inclusion dans l'assiette du RNS des loyers et des dividendes perçus par les cotisants. Le Conseil d'État a bien vu un problème avec le texte, mais pas sur cette question, Charlie René.
Et non, c'est sur la question des taux de cotisation que les juges se sont prononcés. Comme l'avait pointé le recours déposé par l'entrepreneur Jonathan Crawford, épaulé par Areia Polinetia, l'article 20 de la loi du pays explique que les nouveaux taux de cotisation doivent être fixés par le Conseil des ministres après avis de la CPS, mais il explique aussi que ce même Conseil des ministres peut moduler ces taux en fonction des secteurs d'activité et des zones géographiques, et pas plus de précision, une disposition illégale pour le Conseil d'État qui estime que c'est à l'Assemblée de fixer les secteurs et régions prioritaires, ou en tout cas les critères qui permettraient de les identifier. En laissant trop de pouvoir au gouvernement, l'article tombe dans l'illégalité et ne peut pas être promulgué. Reste à savoir ce qui advient du reste de la loi. Le gouvernement estime qu'elle peut tout de même être appliquée en l'État, sans taux modulable, ce qui paraît juridiquement acrobatique pour d'autres. Quoi qu'il en soit, l'exécutif devra revenir devant l'Assemblée s'il veut se donner la possibilité d'instaurer des taux préférentiels dans les îles pour les pêcheurs ou pour les agriculteurs, ce qui pourrait être fait dans le courant du premier semestre 2026, Lucie.
Merci beaucoup Charlie. Voilà, et le détail de ces deux décisions du Conseil d'État sera à retrouver sur notre site dans l'après-midi.
Le gouvernement national a finalement fait passer une loi spéciale pour le budget de l'État.
Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale hier. Elle assure la continuité de l'État en attendant qu'un projet de loi de finances soit vraiment adopté. Le Premier ministre Lecornu espère avant la fin du mois de janvier. Alors que deviennent les amendements adoptés lors de la session budgétaire de cette fin d'année et qui concernaient notamment la Polynésie? Ils ne peuvent pas s'appliquer puisqu'ils font partie d'une loi qui n'a pas été adoptée. Les explications de Nicole Sanquer.
Le Premier ministre a déjà annoncé que dès le mois de janvier, il allait proposer, on appelle ça un PLFR, c'est-à-dire une loi de finances rectificative. Et il tiendra compte, évidemment, de tout le débat budgétaire qui a eu lieu. De toute façon, le Premier ministre a dit qu'il allait s'inspirer, bien sûr, de toutes les mesures où il y a eu quand même une majorité qui s'est exprimée. Mais dès cette semaine, il rencontre les groupes de l'Assemblée nationale pour pouvoir déjà élaborer une loi de finances rectificative.
Alors, contrairement à ce que dit Nicole Sanquer, il s'agit bien d'une loi de finances et pas d'une loi de finances rectificative. Mais effectivement, les négociations reprennent donc et la députée espère que le gouvernement prendra en compte tout le débat budgétaire et les amendements concernant la Polynésie qui avaient été adoptés. On pense à la défiscalisation ou encore aux 2 millions d'euros consacrés à la lutte contre l'ICE. Tout ça ne peut être concrétisé tout de suite puisque la loi de finances n'a pas été adoptée, mais ils peuvent faire partie du prochain texte. Les parlementaires y veilleront.
En tous les cas, nous avons eu quand même un engagement bien du ministre des Outre-mer comme du Premier ministre que c'était une mesure qu'ils allaient revoir, bien sûr, puisqu'il y a eu quand même une levée des Outre-mer par rapport à ça. À ce stade-là, étant donné que ce budget rectificatif va être mené en concertation, et pour obtenir une majorité, évidemment, il faut prendre en compte les avis de tout le monde. Nous poursuivons les négociations et surtout, je dirais, le combat.
La levée de boucliers des ultramarins concernait effectivement les économies proposées sur la défiscalisation et dont ils ne voulaient pas. Ils devront s'assurer que l'État reprend bien leurs demandes. Le combat continue donc, comme l'a expliqué Nicole Sanquer.
Une information qui concerne les touristes.
Oui, les deux compagnies polynésiennes Air Tahiti Nui et Air Tahiti annoncent avoir signé un code share. Désormais, les visiteurs de Tahiti et des îles pourront réserver directement un vol international depuis l'Europe ou les États-Unis jusqu'à Bora Bora ou Rarotonga. L'accord porte effectivement sur ces deux îles selon les compagnies dans un premier temps, ce qui laisse supposer que peut-être ce code share pourrait ensuite être étendu à d'autres îles.
On va au CESEC où on a parlé artisanat.
Mais avant, comme prévu, le schéma d'organisation sanitaire a bien reçu un avis défavorable. On vous en parlait dès hier midi et encore ce matin dans nos journaux. Et cet avis défavorable au prochain SOS a été adopté par 37 voix et 2 abstentions. Et en revanche, le schéma directeur de l'artisanat traditionnel a lui récolté un avis favorable. Un schéma à 3 objectifs, maintenir et transmettre les savoir-faire traditionnels, structurer et gérer l'approvisionnement en matières premières et enfin renforcer la collaboration et les échanges avec d'autres filières pour booster la commercialisation et l'exportation. Kainou Temaori, le ministre de la Jeunesse et des Sports en charge de l'artisanat, salue la concertation qui a été menée dans tous les archipels.
Le point fort réellement, c'est la concertation qui a eu lieu de la part du service de l'artisanat traditionnel qui a vraiment balayé l'ensemble des archipels et a balayé large en fait pour pouvoir s'assurer que le schéma directeur soit conforme à la vision de nos artisans. Donc celui-ci est découpé en 3 axes, la gouvernance puisqu'il y a la volonté de co-construire ensemble avec nos artisans, la structuration qui est nécessaire notamment en termes d'accès aux aides financière et enfin le volet de la commercialisation puisqu'on le sait, l'artisanat traditionnel est une force pour le pays, marqueur de notre identité culturelle. Maintenant, il faut qu'on puisse apporter cette touche de modernité dans la commercialisation en utilisant des nouvelles techniques de vente.
Le gouvernement cherche un lieu aussi en ville, un pôle emblématique d'exposition pour permettre aux artisans d'exposer toute l'année. C'est ce qui manque actuellement à Papeete.
On a ça au niveau des forêts artisanaux des îles, mais il nous manque cet espace-là. Donc j'ai demandé aux deux ministres concernés de m'aider à trouver du foncier pour pouvoir faire sortir ce projet de terre, puisque c'est un projet structurant pour le secteur et ça devient une nécessité. Pour la plupart des subventions que l'on donne aux associations artisanales sont consacrées à la location d'espace ou à la sécurisation d'espace quand ils ont leur salon. Donc tout ça peut être optimisé par un projet de ce type-là.
Et le CESEC est très enthousiaste pour ce futur lieu qu'il recommande entre autres d'édicter une charte cadre des forêts artisanaux et de mieux valoriser aussi le label fennois original.
Dans l'actualité ce midi, c'est aussi cette découverte de 50 kilos de cocaïne sur l'île de Clipperton.
Oui, c'est à l'occasion d'une mission de surveillance maritime que le patrouilleur outre-mer Terriero à Terriero Iterei a découvert 39 ballots suspects échoués sur le rivage de l'île de Clipperton. Ce sont 46 kilos de drogue qui ont ainsi été récupérés et confiés à l'OFAST à Papeete. La découverte a eu lieu fin novembre dans le cadre d'une mission de défense et de surveillance maritime au sein de la zone économique exclusive de la Polynésie et les tests réalisés à bord ont confirmé qu'il s'agissait de cocaïne.
Et vous le savez, le Grand Cirque de Samoa revient en Polynésie au début de l'année prochaine.
Et oui, dès le 16 janvier, ils seront là installés à Otumauro comme d'habitude et pour 3 mois. Et parmi les 35 artistes qui vont venir faire le show, il y aura une Tahitienne qui a grandi en Nouvelle-Calédonie. À 17 ans, Sacha Montlahuc est la plus jeune de la troupe. Sa spécialité, le tissu aérien, une discipline qu'elle sera la seule à proposer sur cette dernière étape de la tournée du Cirque des Samoa. Dans le milieu, depuis l'âge de 10 ans, elle a déjà pratiqué plusieurs disciplines, le fil de fer, l'acrobatie, aussi le jonglage ou encore le trapèze et elle a des objectifs déjà bien définis, rentrer dans une école de cirque et si possible l'Académie Fratellini à Paris. But final, faire partie du Cercle du Soleil et pour le moment, elle s'entraîne, enchaîne les répétitions et suit ses études.
Là, j'ai terminé ma première et je passe en terminale. Donc en même temps que le Cercle du Soleil, j'avais le bac de français. C'était un peu compliqué parce qu'il y a eu la fatigue des entraînements et des spectacles et en plus des révisions. Mais avec un peu de persévérance et de courage, beaucoup de courage, on arrive à quelque chose de pas mal.
Habituée de la scène dite classique, les représentations données avec la troupe le mois dernier marquaient pour elle ses premières expériences sous un chapiteau. Une véritable expérience avec cette proximité du public, se produire avec un cirque traditionnel représente une étape clé de son parcours.
Alors franchement, l'équipe elle est vraiment géniale. Tout le monde est super gentil, à l'écoute, puis il y a beaucoup d'entraide, notamment lors d'entraînement, comme je disais, le matin où on s'entraîne tous ensemble, ça arrive que on échange d'agrès, on essaye par exemple de faire du jonglage, on essaye le tissu, les sangles, enfin c'est plus une famille que des collègues en fait.
Voilà, et on pourra donc la voir en vrai à partir du 16 janvier et même dès le 25 décembre, car le Grand Cirque des Samoas s'arrête à Moorea pour des représentations spéciales Noël. Ce sera les 25, 26, 27 et 28 décembre. Le rendez-vous est à la salle Omnisport de Afare Aitu pour un spectacle inédit avec 25 artistes. Les billets sont en vente sur ticketspacifique.pf, dans les magasins Carrefour et à l'accueil de vos radios Afare Aute.
Une billetterie sur laquelle vous trouverez aussi des places pour le prochain Tiki Fest.
Et oui, car c'est SA Productions qui reprend les commandes de l'événement. Tête d'affiche pour 2026, le rappeur Aurel San, dont le dernier album La Fuite en Avant vient de sortir. Et The Avener, alias Tristan Cazara, DJ Electro House, qui s'est révélé au monde il y a une dizaine d'années avec un album qui reste une référence, The Wanderings of the Avener. Il y aura aussi Shelley, Temer Records et Teisho Tetoofa. Ça se passera à Toata le 28 mars prochain et les billets sont en vente déjà sur ticketspacifique.pf. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour le journal. Maintenant, c'est la météo sur Radio.